Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Alors nous allons poursuivre et finir notre examen des commandements de Dieu. Nous avons vu la dernière fois que les anciens, dont Aristote, avaient, en réfléchissant, déduit de leur considération sur l'existence de Dieu qu'il convenait de lui rendre un culte, puisque nous devons à Dieu l'être et l'existence. De fait, toutes les civilisations jusqu'à nos jours ont rendu un culte à Dieu. Il y a une dérivation vers le polythéisme, mais qui n'est pas précurseur du monothéisme. Les civilisations les plus primitives avaient un culte vers le tout, divinité très cachée, très lointaine, mais ils croyaient le Manitou, notamment dans les civilisations amérindiennes, ils croyaient dans ce Dieu, dans cette puissance supérieure que l'on devait respecter par-dessus tout. Ensuite, il y eut les grands athéismes, le nazisme, le marxisme, le néolibéralisme, qui ont nié ce culte à Dieu avec les conséquences que nous voyons. Mais on peut alors aborder la position sur la question sur un aspect plus technique, dirions-nous, plus réaliste. Disons d'abord que l'homme est une machine extrêmement complexe. Il n'est que de voir la variété de spécialistes qui s'attachent à nous conserver la santé. Il y a évidemment l'otorino, il y a le gastrologue, il y a l'entérologue, il y a le phlébologue, il y a l'hématologue, on s'en sort plus, sans parler de ceux qui se chargent de l'extraordinaire élaboration d'un corps humain à travers un autre, qui sont tous les gynécologues et tous ceux qui s'intéressent à la naissance et aux maladies de l'enfant dans le sein de sa mère. Donc, cela montre que l'homme est une machine extraordinairement complexe. C'est aussi un animal social. C'est une évidence reconnue depuis la plus haute antiquité. Mais au contraire des autres animaux sociaux, en particulier des fourmis, abeilles, termites, etc., l'homme peut se conduire d'une manière asociale, voire antisociale. Et cela, il y a toujours eu des gens qui ne l'ont pas fait. Ce qui veut dire que l'homme est capable de rejeter ce qui fait son existence même. Essayons d'approfondir la question. La nature humaine nous a été confiée sans que nous en soyons les auteurs. C'est une machine extraordinaire de complexité, nous avons dit. Mais l'expérience montre que quand on vous confie une machine, on y joint toujours un mode d'emploi. Et il est intéressant et important de suivre le mode d'emploi. Vous pouvez toujours mettre de l'huile de friture dans le moteur de votre voiture, vous risquez d'avoir quelques ennuis. Vous avez fait remarquer à certains que dans la voiture, il y a 4 eaux différentes. Vous avez l'eau du radiateur, vous avez l'eau du lave-glace, vous avez l'eau de la batterie et vous avez l'eau que vous boirez, que vous mettez dans une bouteille pour boire en cas de soif. Il n'est pas très recommandé de confondre ces 4 eaux. Il n'est pas recommandé pour vous de boire l'eau du lave-glace ni de mettre l'eau de votre bouteille dans les batteries. Ça ferait du désordre. Donc, il y a toujours un mode d'emploi à respecter. N'y aurait-il pas un mode d'emploi pour la nature humaine? On peut constater que les consignes d'utilisation ne manquent pas. Du Confucius, Lao Tse, le Bouddha, les lois de Solon, Socrate, en passant par le code d'Hammurabi, qui est peut-être l'un des plus anciens. Les textes ne manquent pas. Et ce qui est très curieux, c'est que les textes sont tous comparables, pour ne pas dire semblables. Le plus complet, le plus bref, une quintessence en quelque sorte, est donné par les 10 commandements de Dieu. Le texte des 10 commandements de Dieu est en quelque sorte l'essentiel, le fond même de mode d'emploi de la nature humaine. Alors le drame est que l'homme se révolte bien souvent contre ces lois, parce que ces lois impliquent qu'on leur obéisse. Et par nature, après le péché originel, l'homme est un révolté. Il ne veut pas obéir. Il veut faire ce qu'il veut. Mais encore faut-il réfléchir sur ce que l'on veut. L'exemple le plus caractéristique est le petit garçon qui dit « Maman, je veux du chocolat. » « Je te préviens, si tu en manges de trop, tu seras malade. »« Je veux du chocolat. » « Je te préviens. »« Je veux du chocolat. » « Eh bien, mange-le. » Et 2 heures après, « je suis malade. » tu l'as bien voulu. Je me rappelle avoir entendu en cours d'histoire la réflexion de Napoléon, galopant sur le champ de bataille d'Eylau, qui fut une horrible tuerie, en disant « Je n'ai pas voulu cela ». Eh bien, si, il aurait fallu vous y prendre avant, parce que cela, en réalité, c'est les conséquences de ce que vous avez décidé, donc de ce que vous avez voulu. Autrement dit, vouloir quelque chose, c'est très bien, à condition de vouloir ce que l'on veut. Il y a des choses que l'on voudrait et qu'on ne pourra jamais. Je ne pourrai jamais, par mes propres moyens, aller dans la Lune, c'est évident, ni sauter un mur de 6 mètres de haut, c'est évident aussi. Mais indépendamment de ces limites de la liberté, ces limites physiques de la liberté, il y a le fait, il faut savoir, ce vers quoi nous nous dirigeons. Et c'est là où on voit le drame actuel, des gens qui veulent se diriger vers une satisfaction sensuelle immédiate. Une satisfaction sensuelle immédiate, une fois qu'on l'a eue, on est bien obligé d'en assumer les conséquences. Et si on a pris trop de foie gras, d'être malade. Ou, si on a voulu trop de femmes, de ne plus en avoir aucune et de mourir seul, abandonné, dans un coin d'hôpital. Et c'est de ce côté-là que l'on constate que des deux livres, les clés de l'Ancien Testament, sont peut-être bien l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. L'Ecclésiaste dit « Vanité des vanités et tout n'est que vanité ». L'Ecclésiaste de respecter, on fait cela un jour, on veut le contraire le lendemain. Aujourd'hui, il est un temps aimé, il est un temps pour haïr, il est un temps pour désirer, il est un temps pour souffrir, il est un temps, etc. Autrement dit, l'Ecclésiaste met son accent dans la relativité de tout ce qui nous concerne ici-bas, car l'homme est fait pour autre chose. Et ça, c'est le Cantique des Cantiques qui le dévoile. L'homme est fait pour un amour de Dieu, absolument infini, invraisemblable, la fusion avec Dieu, et ça, c'est incompréhensible. Dieu est amour, il nous aime, on ne sait pas très bien pourquoi, mais c'est comme ça, et il faut s'y faire. Et au point de vue amour, il faut constater que la langue française est beaucoup plus pauvre que la langue grecque. Pour signifier amour, les Grecs avaient 3 étages. Ils avaient d'abord le stage eros, qui est aimer pour soi-même. J'aime les tomates, parce que ça me fait plaisir de les manger. Remarquez que ce terme héros peut avoir des conséquences très, très, très amples. Par exemple, j'aime la science, la philosophie. Je vais donc m'y consacrer, mais je l'aime pour moi-même. Le deuxième étage que note Aristote, c'est le terme philéine, qui a donné il est américanophile, germanophile, etc. Philéine, c'est pouvoir avoir, c'est l'amour d'amitié. On va se mettre avec quelqu'un pour réaliser une œuvre commune. C'est autre chose. Et pour Aristote, la philie, ce verbe philéine, le summum est l'amour conjugal. On s'unit avec quelqu'un pour avoir des enfants et les élever vers une vie sociale digne d'eux, les élever vers la pleine dignité de la nature humaine. Le dernier stade qui est décrit dans Saint Jean, c'est agapane. On se sacrifie pour quelqu'un. J'ai lu dernièrement ce qu'on m'a envoyé, un brave homme qui allait voir tous les jours sa femme, et on lui dit, à l'hôpital, on lui dit, c'est bien, vous allez voir votre femme qui est malade. Oui, a-t-il ajouté, elle ne me reconnaît même pas. On dit, mais alors pourquoi allez-vous le voir si elle ne vous reconnaît pas? Il dit, oui, mais elle, je la reconnais. C'est un mot agapane, c'est un mot oblatif, dont le sommet est naturellement le sommet sur la croix que nous verrons le mois prochain, que nous verrons en liturgie. Et c'est là, on comprend que la révolte, dans le fond, Dieu veut m'imposer ses lois, moi ça m'est égal, je les rejette. Oui, certes, ce ne serait peut-être pas sans allure, quoi que ce soit irraisonnable, s'il n'y avait le Golgotha. Car Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, a voulu avoir notre conséquence et la mort pour aller jusqu'au Golgotha, se sacrifier pour nous. À ce moment-là, la révolte contre Dieu n'a plus aucune raison d'être. Et si l'on constate les aspects de la religion, on peut dire la chose suivante. Avec tous ceux qui réfléchissent correctement, nous croyons en un esprit créateur. Avec les musulmans et les juifs, nous savons que ce Dieu est créateur, très miséricordieux, et nous a donné une personnalité à laquelle il porte grandement attention. Avec les juifs, nous savons que ce Dieu, que nous avons péché contre lui, que nous nous sommes révoltés contre lui, mais qu'il nous a promis un sauveur. Avec les protestants et les orthodoxes, nous savons que ce sauveur est venu, qui nous a rachetés de nos péchés, qu'il est mort sur la croix par amour pour nous, et que donc nous lui devons tout à fait un amour particulier. Avec les orthodoxes, nous savons entre autres qu'il nous a laissé des sacrements, dont ces sacrements invraisemblables, qui sont le sacrement du pardon. Nous pouvons, nous avons la possibilité de nous réfugier comme le fils prodigue dans les bras de notre Père, et que notre Père nous pardonnera et nous remettra tous les péchés. Nous savons que cette chose invraisemblable que Dieu peut entrer en nous par l'Eucharistie, nous assimiler en quelque sorte à sa nature, et que par une nature, il peut nous rendre semblables à lui. Et puis par ce marché, comme catholiques, nous savons qu'en plus, nous avons un chef, le pape, qui nous dira où nous allons. Mais enfin, serais-je prêt à crier à tout le monde, nous voyageons dans un wagon extrêmement confortable. Je voyais l'autre jour un machin sur l'Orient Express. Nous avons le salon, nous avons la cuisine, nous avons tout ce que nous pouvons imaginer. Nous sommes bien les ouvriers de la 11e heure. Nous avons tout le luxe que nous pouvons imaginer du point de vue spirituel. Que nous devrions faire, c'est appeler tous les autres en disant, mais venez, ne soyez plus les serviteurs, ne soyez des amis, ne soyez plus les esclaves, mais devenez les amis, entrez dans le salon où le maître vous invite, pour peu que vous connaissiez en son fils incarné, notre Seigneur Jésus-Christ, véritablement le Dieu qui vous appelle et veut vous prendre par la main pour vous faire entrer. Et bien, la veille de ces fêtes de Pâques, voilà ce que je vous propose de dire et ce qu'il faut faire pour arriver enfin à ce que le monde s'intéresse à autre chose que l'argent. Je ne peux ne servir plus de maître Dieu et l'argent. Actuellement, on ne sert plus que de l'argent. Chaque fois qu'on parle de quelque chose, il s'agit d'argent. Je vois pour des histoires, des catastrophes qui ont lieu il y a 20 ans, on se dispute, on délègue des avocats qui dépensent des sommes invraisemblables pour gagner de l'argent. La question n'est pas là. Cet argent, vous serez bientôt tout nu entre quatre planches de bois, grouillé de grouillants de vers de terre, et l'argent, qu'en ferez-vous? Que deviendra-t-il cet argent? C'est l'amour de Dieu qui nous sauvera, c'est à l'amour de Dieu qu'il faut aller. Voilà. Excusez-moi, je suis peut-être allé trop loin et surtout trop long. Je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques et la prochaine fois, je vous proposerai un autre chemin qui peut-être permettra d'aller au-delà de l'Ancien Testament qui, comme le disait le Père Philippe, est la crypte de notre Église. La crypte est nécessaire dans une Église. Mais c'est quand même le cœur qui est le meilleur. Joyeuses Pâques à tous, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé, et tant qu'on m'en laissera la possibilité, je reviendrai discuter avec vous de temps en temps.